هيلالي 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 هيلالي
Les petits déjeuners orientaux.
هيليك هيلي حبيبي ديالي فين هو.
Bonjour, les petits déjeuners du sud, des suds. Alors avec moi, Fabrice Denis, imperturbable, merveilleusement frais, après une semaine de sud à Arles, après une semaine de moments précieux, de théâtre antique et surtout de salon de musique. Fabrice.
Bonjour, mais je dois bien cacher mon jeu puisque de l'intérieur, c'est pas aussi net que de l'extérieur.
Ah, c'est pas aussi clean que ça.
Non.
Donc alors, cette année, le musée d'art antique a reçu, comme l'an passé, comme l'an précédent, Abagi, pour animer chaque jour un moment tout à fait particulier et unique.
Oui, un moment qui a, enfin je crois maintenant, qui a bien trouvé sa place dans le festival, qui a bien trouvé son public, qui vient se poser dans le lieu, avec beaucoup de force et d'efficacité. Et je crois que c'est un peu tous les rendez-vous qui sont proposés par le Festival des Suds. J'ai le sentiment qu'ils répondent tous à cette logique implacable. Et c'est vrai qu'au musée, ces salons de musique donc, sont animés par Abagi depuis 2 ans. Et c'est un vrai plaisir pour, déjà pour moi. Je vais être très égoïste là. C'est déjà...
comme Daniel Warraud disait hier justement sur la musique, il insistait, parce que c'est quelqu'un de très généreux, il insistait particulièrement sur le fait que, en plus de donner beaucoup, lui, il prenait énormément. Donc, tout à fait dans cette logique, Fabrice.
Et c'est vrai que ces moments à 16h30, là, qui ponctuent en fait, la semaine chez nous, sont vraiment des pauses et des temps d'échange et de rencontres très, très, très profonds. Moi, c'est vraiment quelque chose que je retiens... sur ces 2 années de fonctionnement, même si il y a 3 ans, nous avions une autre configuration de salon de musique animée par Franck Tenaille, qui était fort, fort intéressant, ces salons, qui étaient peut-être davantage des temps de rencontre sur la culture musicale stricto sensu, sur, on va dire, peut-être des mini-conférences d'ethnomusicologie. Et Abagi, en tant que musicien, en fait, amène à côté de ces notions-là tout un regard critique et très didactique sur la musique, sur les instruments de musique, sur comment tout ça voyage d'un pays à l'autre, comment tout ça se transforme. Bonjour.
Cathy D'Amour nous rejoint. Bonjour Cathy.
Et voilà, le plaisir, en fait, il est là à l'entendre lui poser les bonnes questions, en tout cas les questions, et à être aussi à l'écoute du public, parce que bien entendu, on n'est pas dans une relation frontale. C'était justement le but de rompre avec ça. Et là, le public a tout à fait sa place sur quelque chose qui n'est pas une scène, qui n'est pas une tribune non plus, c'est un peu tout ça à la fois. Donc c'est, je crois que le salon de musique, il a vraiment cet intérêt. J'ai plaisir de voir que depuis lundi, il y a déjà un public qui est fidèle, enfin qui pour rien au monde a priori raterait ce moment. Par exemple Antoine.
Alors Antoine Ciao, qui est à la console aujourd'hui. Et aux manettes, comme on dit. Et alors, aujourd'hui, c'est le dernier jour de festival en ville, parce que demain, il y a le traditionnel voyage à Saint-Lin-de-Giro, que tout le monde connaît, que personne n'a envie de louper quand on le connaît. Mais alors, plus rien ne se passe vraiment comme avant. On perd un peu ses repères. Il n'y a pas de scène en ville, par exemple. Mais par contre, il y a un ultime salon de musique qui doit être ô combien intéressant, puisque... cet après-midi, Abagi reçoit Wazifuddin Dagar, voilà, et qui est donc hier au moment précieux dans la cour de l'archevêché, donc grand chanteur de Drupa, d'une famille, c'est de 20 générations successives de virtuoses, et il va nous expliquer un peu ce qu'est, je pense, le chant Drupa, les traditions et tout ça, et je pense que c'est un moment que vous attendez particulièrement, Fabrice.
Moi, j'ai eu la chance de pouvoir assister effectivement au concert là d'hier, et je suis d'autant plus curieux donc de cette rencontre. Personnellement, enfin, mais je crois que c'est une expérience qui a été partagée par pas mal de monde hier, c'était le fait de se laisser totalement porter et envahir par cette musique. Il y a effectivement des moustiques qui nous tournent autour.
Cathy, je vous propose le présage d'une journée terrible. Prêt tissu.
Moi, surtout sur le crâne, peut-être.
C'est pour les vêtements.
Et donc, oui, j'ai beaucoup de hâte à découvrir la manière dont cette musique se fait, se compose, s'improvise. Je pense que, oui, là, on aura un salon très
précieux.
Très précieux. Et qui, je pense, pour une musique qui, j'ai cru comprendre, remonte au premier millénaire avant notre ère, a toute sa place dans un musée d'archéologie. Ouais. Je crois que c'est aussi ça, la force, c'est que ce n'est pas n'importe quel musée dans lequel ont lieu ces salons, c'est un musée d'archéologie et qui nous raconte l'histoire d'Arles et de ses habitants. Donc, c'est un musée dont les collections sont centrées sur la mémoire, en fait, et tout ce qui peut matériellement rester d'une culture. Et le salon de musique lui prend un peu le parti de la culture immatérielle, de la manière dont la musique s'enseigne, se joue. On n'a plus de son de l'art antique. Moi, j'aimerais bien retrouver un disque quelque part, en fouille.
Les tubes des années 2000 avant Jésus-Christ.
23 de notre ère. Y a des tentatives, y a des expérimentations qui sont faites par des archéologues. Il y a quelques instruments qui ont été reconstitués d'après des représentations. C'est le cas de l'orgue hydraulique, c'est le cas d'un certain nombre de flûtes, de percussions. On a des représentations sur des objets, des sarcophages, des lampes à huile. Pour le musée, nous avons une petite dizaine de représentations d'instruments de musique du 2e siècle à peu près. Mais pas d'instruments archéologiques, si ce n'est des hochets ou des jeux pour enfants. On a quelques flûtes qu'on s'est amusé d'ailleurs à faire sonner. Mais quand on entend la richesse des propos du salon de musique, on se dit bon sang, qu'est-ce qui nous manque dans ce musée, quoi, en matière d'archéophonie.
Voilà,
joli.
On est en train d'ouvrir un nouveau champ de l'archéologie, c'est l'archéophonie. Donc on vient de travailler pendant 3 semaines sur l'amphithéâtre des Trois Gaules à Lyon et on a mis en place, à partir d'un procédé qui avait été inventé par Charles Cros, donc un procédé d'archéophonie donc qui nous permet d'extirper des sons des vieilles pierres.
Avec qui, Antoine?
Avec mon complice Nicolas Lambert, bien entendu.
Eh bien, des dents.
On en reparlera les années suivantes.
Cathy Damour, alors vous n'êtes pas exactement dans l'archéologie ni dans l'archéophonie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ?
J'ai une mémoire, moi aussi, à ma manière, qui est celle, on va dire, plus des projets artistiques et des entreprises de spectacle. Voilà.
Donc, alors, votre fonction exactement est...
Je suis responsable de secteur au Centre National des Variétés, donc un établissement public qui recouvre la taxe sur la billetterie des concerts et qui la redistribue ensuite avec des programmes de financement d'entreprises de spectacle. Donc, comme je le disais, je travaille particulièrement sur les aides aux festivals et aux tournées d'artistes et de groupes. Voilà.
D'accord. Et ça, ce sont des budgets à l'année ?
Nous fonctionnons avec un budget global de 14 millions d'euros. C'est à peu près ce qu'on perçoit et ce qu'on redistribue, donc, avec une très grande partie qui est reversée par une aide automatique, donc, qu'on appelle dans notre langage CNV le droit de tirage, qui correspond à peu près à 65% de ce que les affiliés ont, pas affiliés d'ailleurs, ont versé. Les 35 autres pourcents qui sont affectés à des programmes spécifiques, d'aide spécifique, donc aux salles, aux festivals et aux producteurs de spectacles.
D'accord. Et alors, pour bénéficier d'un reversement, d'une subvention de votre part, il faut monter un dossier, j'imagine.
Oui, mais avant ça, il faut être affilié, en fait. Il faut qu'on ait identifié la structure et qu'elle ait donné la preuve de son activité en tant qu'entrepreneur de spectacle, donc avec une licence, etc. Certains de nos programmes demandent d'être affiliés depuis au moins 1 an, donc c'est... voilà.
Très bien. Fabrice, au musée, vous organisez des concerts sans aucune subvention ?
De fait, si, puisque nous sommes un service public, donc on va dire que c'est avec l'argent public qu'on fait ces concerts. On est un établissement public départemental. C'est le Conseil Général donc, des Bouches-du-Rhône qui est notre tutelle hein, directe. Et donc tout ce que nous pouvons faire se fait grâce au budget de fonctionnement de cet établissement, dont une part va effectivement vers des activités qui ne sont pas en rapport direct avec l'archéologie, mais qui s'inscrivent dans une politique des publics qui mobilise notamment des partenaires, les Suds, à commencer par les Suds. Moi, ça fait depuis que je suis arrivé dans ce musée que la collaboration s'est mise en place et perdure et se développe et fait des petits, et avec à chaque fois des histoires qu'on imaginait avec Marie-Jo qui sont toutes passionnantes. Juste pour l'anecdote qui n'en est pas une, Affiletta, donc ils sont venus jouer.
Qui a démarré le festival voilà, chez vous.
Avec une pièce magnifique, la Médée, qui avait toute sa place, bien sûr, dans un musée d'archéologie. En plus, on a une représentation de Médée s'apprêtant à tuer ses enfants donc, comme statue chez nous. Donc c'était très, très, très cohérent de les avoir. Mais j'ai surtout eu beaucoup de plaisir à découvrir qu'il y avait dans l'équipe d'Affiletta deux archéologues. Donc il y a un préhistorien renommé qui enseigne à l'université de Corte et on avait d'ailleurs quelques connaissances communes, et bien entendu la première chose qu'ils m'ont demandé c'est d'aller voir les réserves du musée. Donc on a passé du temps finalement ensemble dans les réserves à ouvrir des boîtes. Il se trouve que donc lui est préhistorien spécialisé dans la taille, hein, de la taille non pas du silex puisqu'il n'y en a pas en Corse, mais d'autres pierres volcaniques, la rhyolite par exemple. Et donc on a manipulé comme ça des petits cailloux taillés avant le salon de musique. Et
vous êtes
très
bien
agréable.
Amusé, j'imagine.
Oui, pour dire voilà, que c'est un groupe comme Affiletta, le fait d'avoir également un historien qui s'intéresse au Moyen-Âge, un archéologue, en fait ça me semble très cohérent par rapport à l'idée qu'ils portent et à la vision et la manière dont ils perçoivent leur musique comme expression culturelle. Et depuis le début des salons de musique, je suis vraiment émerveillé par le rapport que ces musiciens entretiennent avec leur musique. C'est pas une pratique instrumentale. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est tout ce qu'il y a derrière. Je crois qu'avec Daniel Warraud, hier, on a eu un exemple extraordinaire. Moi, j'étais vraiment, mais totalement sous le charme. C'était la première fois, personnellement, que je l'entendais. Je l'avais vu sur scène, mais que je l'entendais là et qu'on
parlait.
Et quelle joie, quel bonhomme, quoi.
Cathy, c'est pas nous qui allons le contredire, vous le connaissez très bien, parce que vous venez de la même île.
Alors, pour rebondir, on va dire, sur cette idée, j'avais justement hier soir une conversation avec un de ces musiciens, à qui je disais précisément que ce qui était intéressant, moi qui travaille sur un champ d'application assez large pour écouter toutes les musiques actuelles, on va dire, que je lui disais que dans les musiques du monde, finalement, il y a une telle richesse que c'est peut-être dans ces musiques-là que je vois les plus beaux concerts. Aussi parce que justement les musiciens ont ce rapport dont vous parliez à la musique et à leur instrument qui est assez fascinant et qui fait qu'il se passe des choses sur scène qui sont impalpables, mais en tout cas qui font dresser pas mal les poils. Hein.
Alors les musiques du monde, les musiques du monde sont extrêmement larges parce qu'aujourd'hui on y croise aussi les musiques actuelles. Alors je vous propose d'écouter maintenant quelque chose qu'on peut aussi considérer comme des musiques du monde mais qui reste une musique actuelle. C'est un groupe qui nous vient d'Islande, qui accompagne, c'est un quatuor à cordes à la base, mais qui accompagne le groupe Sigur Rós, groupe islandais bien connu dans le monde pop et qui a fait un disque instrumental tout à fait savoureux, et le groupe s'appelle Amina, avec deux I comme dans Amina. Voilà, Amina.
Oh,
musique du Pays des Glaces, Amina, n'est-ce pas tout à fait agréable ? Enfin bref. alors Fabrice, tu continuais hors micro en répondant à la question, alors qu'est-ce qui va se passer après le festival ? Est-ce que le musée va arrêter de produire ou de d'accueillir des sons et des musiques? Et la réponse est non, et ça on en est bien content. Il y a des tas de projets.
Alors il y a des projets, sont déjà bien actifs,
puisqu'à court
terme on a, bon, dans le cadre d'une exposition d'archéologie dédiée à l'Arménie antique, hein, donc aux origines de l'Arménie, avec des objets magnifiques. Je profite pour faire la promotion pour cette expo, puisque c'est l'occasion de voir des objets qui viennent spécialement d'Arménie et qui sont exceptionnels, notamment des bijoux du 3e millénaire avant notre ère, qui sont des splendeurs, vraiment. Pour dire aussi que dans le cadre de cette exposition, nous avions accueilli il y a plus d'un mois les maîtres de musique d'Arménie, splendide formation classique qui joue un répertoire antique pour partie. Et la semaine prochaine, donc le 26 juillet, nous avons Araïk Bartikian, qui est un joueur de doudouk, qui est
l'instrument emblématique de toute l'Arménie, une espèce de hautbois.
C'est ça. Et qui viendra là en duo avec Sevan Manoukian, qui est une chanteuse et qui mêle sa voix parfaitement avec ce doudouk. Donc ça, c'est pour l'immédiat. Il y a des projets avec le festival de la harpe, qui est un festival de cordes, hein, finalement. Je rappelle que l'année dernière...
La harpe est un instrument à cordes, oui.
Mais pardon.
C'est une fois.
un peu... non, c'est simplement un festival qui dépasse très largement en fait le cadre de la pratique de la harpe. Et nous avions par exemple accueilli Didier Locoud l'an dernier dans ce cadre-là.
Là, la harpe, elle est petite.
La harpe,
elle se porte à l'épaule avec
à quatre cordes portées sur l'épaule. Et bref, donc là, il y a des projets. Et il y a aussi, on va dire, l'idée à plusieurs musées d'archéologie, de musées qui sont plutôt tournés sur la Méditerranée, d'imaginer une programmation commune de concerts sur des thèmes très particuliers. L'idée vient du musée de Saint-Romain-en-Galles, qui est au sud de Lyon. C'est un musée d'archéologie récent, hein, qui a une dizaine d'années. Et nous avons été, nous, contactés par ce musée pour savoir si nous étions intéressés de participer à cette aventure qui consisterait à programmer entre Paris, Lyon et Arles, en fait, des concerts sur des thèmes très antiquisants, disons comme Orphée, par exemple. Donc la fondation Dapper, le musée du Quai Branly, l'Institut du monde arabe, les musées de Lyon et de Saint-Romain-en-Galles et d'Arles seraient, voilà, un petit peu les coproducteurs de cette tournée qui pourrait démarrer dès l'année prochaine.
C'est passionnant, ça ouvre des portes.
Ça ouvre des portes, ça ouvre des publics, ça ouvre des relations avec des musées qui ont des relations scientifiques, puisqu'on se prête des objets, on est scientifiquement, on va dire, en contact, mais pas nécessairement sur cet aspect-là de notre fonctionnement. Donc moi, je serais ravi de voir se concrétiser ce projet.
Cathy, aujourd'hui, le monde de la musique est plus ou moins obligé de se réinventer parce qu'on traverse une crise avec les nouvelles technologies, ça, les changements de façon de faire. Est-ce que votre structure a prévu une aide à l'innovation, une aide à des nouvelles façons de faire qui sont en train de se créer peut-être?
Des nouvelles façons de faire, waouh.
D'organiser la musique vivante ou...
Je crois que c'est pas. Enfin, les nouvelles façons de faire, elles s'inventent d'elles-mêmes. C'est-à-dire, ce sont les gens qui travaillent et qui sont sur le terrain qui trouvent de nouvelles façons de faire parce qu'ils sont contraints économiquement de trouver des solutions. Donc, c'est pas à nous de l'inventer. Je crois pas. On n'a pas.
Oui, non. Non, mais est-ce que vous avez
pas au CNV,
la
prétention de
d'inventer? Non, certes. Je m'en doutais bien, mais est-ce que vous avez la possibilité de réagir assez vite sur une innovation? sur quelque chose qui serait une façon de faire que, qui n'est pas déjà cataloguée.
Ça fait partie des choses sur lesquelles effectivement on travaille, et c'est dans ce sens qu'une mission de veille est mise en place au CNV, précisément pour observer toutes les transformations que notre secteur est en train de subir, et évidemment dans la mesure du possible, si ça peut donner suite à de nouveaux programmes, pourquoi pas. Je pense que c'est en cours de réflexion, ça fait partie de notre quotidien, on va dire.
Bon, ben, merveilleux. Alors, Fabrice, donc ce programme, tout le programme de l'année prochaine est clos ?
Non, c'est en tout cas pour ce qui concerne donc les Suds, hein, les choses se font, on va dire, tranquillement mais sûrement. On se voit avec Marie-Jo pendant l'hiver, on écoute des choses, elle m'amène des projets.
La larme à l'œil.
Et non, c'est très agréable de voir petit à petit les choses se mettre en place. Au rythme du Mistral en hiver, parce que ça irait sans doute trop vite, mais au rythme tranquille mais assuré d'un festival qui cherche absolument à trouver sa place avec pertinence dans les différents lieux de la ville. Et moi j'ai beaucoup de plaisir de travailler avec Marie-Jo et toute l'équipe, parce que les choses se font pas du tout de manière brutale. Moi je me positionne pas du tout comme un lieu, comme un réceptacle. On est beaucoup plus qu'une auberge dans l'histoire.
Vous n'êtes pas un ogre à concert.
Non, mais c'est ça. Et tout à fait. Et puis, il y a un profond respect en fait de l'identité du musée. Et les projets que Marie-Jo peut nous proposer sont des projets déjà réfléchis préalablement. Je sais que quand déjà elle vient avec un projet, c'est que il y a déjà derrière une réflexion qui fait que elle pense que ça peut marcher et qu'une création, puisqu'il y a souvent des créations, bon, pour Affiletta, c'était pas
clair.
Le cas, c'était une adaptation.
Oui, mais ceci dit, elle est revenue du festival des chants polyphoniques de Calvi, animés par l'équipe d'Affiletta. Elle a assisté, j'étais avec elle en fait, elle a assisté à la représentation de Médée, elle est rentrée à Arles, chez elle, et au musée Mappa, elle a vu cette pierre de Médée, c'est comme ça qu'elle a eu le...
Tout à fait. On avait à ce moment-là l'expo Ingres et l'Antique. Et dans l'exposition Ingres, on avait déplacé un objet de nos collections permanentes vers cette expo. Et en l'occurrence, donc, cette statue de Médée, qui est une statue en calcaire du IIe siècle, qui a été trouvée, a priori, à quelques
dans
pas d'ici.
Dans cette cour.
À quelques pas d'ici. Et elle a eu... ça lui a semblé totalement évident, à la vue de cette pièce, que le Médée d'Affiletta qui avait été joué au Louvre, mais dans le cas de la Nuit Blanche, donc avec un concert beaucoup plus coupé, c'est-à-dire qu'un morceau était joué, puis le public se déplaçait, et manifestement, je crois qu'ils étaient plus sereins dans l'ambiance du musée, puisque le fait de pouvoir jouer comme ça, dans la continuité, en fait, leur pièce, s'inscrivait peut-être
mieux. Pour ceux qui n'étaient pas là lundi soir, ils ont commencé le tout début du concert près de la pierre.
Voilà.
Et ils ont fait deux chants. Et après, ils ont été rejoints tout à fait à côté, une petite scène qui était montée. Entre les pierres, d'ailleurs, les artistes étaient autant mis en valeur que...
Mais c'est ce qu'il y a d'étonnant, c'est que toutes ces pierres-là, tous ces objets qui faisaient le décor de ce spectacle du lundi soir, sont des objets qui proviennent du théâtre antique. Donc c'est quand même intéressant de voir que les Suds ont certes leur programme le soir, mais que nous on a un petit peu du théâtre antique chez nous, et tous ces objets étaient les éléments d'architecture et de décor du théâtre antique qu'on a retrouvé au XIXe siècle finalement, quand on a commencé à redécouvrir ce monument qui avait totalement disparu sous la ville. Et il y avait quelques vestiges archéologiques que les érudits avaient repérés, mais imaginez plutôt un temple. Enfin bon, il y a tout un fantasme et toute une spéculation autour du théâtre antique. Mais voilà, simplement pour dire que c'est plaisant aussi d'accueillir nos concerts au milieu des vestiges hors contexte, hein, puisqu'ils ont été arrachés de leur contexte premier qui était celui du théâtre, et ils sont maintenant
au
musée. Et leur donner
un petit peu de
musique. Et ces vestiges, il faut savoir qu'ils ont forcément été les spectateurs de spectacle il y a 2000 ans dans le théâtre. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un bel hommage aussi que de les baigner à nouveau dans une ambiance sonore. Et enfin, je trouve que symboliquement, il y a quelque chose de fort derrière, quoi.
Absolument.
J'aime beaucoup ce que je fais, mais je trouve que ce que vous faites est particulièrement passionnant.
Alors moi, je vais vous laisser méditer à tout ça avec un petit air de musique qui nous vient du Brésil par un compositeur argentin qui s'appelle Ramiro Musotto, qui est un compagnon ponctuel de Lénine, le chanteur brésilien assez connu, avec qui ils avaient fait notamment une création dans un auprès d'un autre, avec un autre musée qui est celui de la Cité de la Musique à Paris. Et là, c'est l'album solo de, le deuxième album solo de Ramiro Musotto, qui est donc argentin, percussionniste, né, devenu un des maîtres au Brésil du berimbau, instrument emblématique. Et donc l'album s'appelle Civilisation et Barbarie. Ramiro Musotto.
Quien sabio se calla.
Ramiro Musotto dans tiré de l'album Civilisation et Barbarie. Et là, comme le faisait remarquer Antoine, qui était très content parce qu'il a reconnu un de ses copains.
Oh, un copain, c'est un peu exagéré. Mais Benjamin, je suis ravi de savoir qu'il y a un groupuscule crypto-zapatiste à Mondomix, donc, qui est en train de prendre le pouvoir. Donc, effectivement, j'ai été appelé le sous-commandant Chao là, dans le journal de la Provence, dans l'article. Donc là, je suis ravi que tu aies sauté sur l'occasion pour passer ce message du sous-commandant Marcus, donc, qui appelle là, à la solidarité avec les peuples indigènes, donc notamment les peuples zapothèques de Mexicains, mais aussi de tous les indigènes d'Amérique latine. Quoi.
Mais oui. Et là, je ne sais pas du tout comment faire l'enchaînement. Est-ce que j'ai envie de vous demander, Cathy, à propos de tous ces festivals qui n'ont pas forcément lieu en Amérique latine, qui n'ont pas forcément dans leur programmation que de l'Amérique latine, révolutionnaire, c'est quels sont les différents types de festivals que vous aidez, que vous subventionnez et que vous croisez ou...
Alors, nous aidons toutes sortes de festivals dont la programmation s'inscrit évidemment dans notre champ d'application qui, je le rappelle, concerne toutes les musiques actuelles, les comédies musicales, l'humour. Donc voilà, ça représente, on va dire, l'essentiel des festivals que nous aidons. Donc évidemment, les esthétiques sont extrêmement variées. Mais pour ce qui est de on va dire les types, on peut peut-être les distinguer entre ceux qui sont inscrits dans des lieux existants à l'année. De ceux qui ont lieu en plein air. Donc, ce sont en gros les deux formats qu'on peut rencontrer. Donc, avec on va dire une forte installation dans la ville, comme c'est le cas pour les Suds. Tout ce travail est plus ou moins développé suivant les équipes, suivant les villes, suivant le travail de collaboration qui peut être mis en place avec les associations locales, etc. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour saluer le travail de Marie-José Justamont, qui est la directrice des Suds, que tout le monde connaît, j'imagine, depuis.
Qui n'est pas venue faire sa petite dédicace à ses propres amis, comme elle le fait d'habitude dans cette émission.
Et également à toute son équipe pour vraiment ce travail incroyable que représente le Festival des Suds.
Oui, c'est assez unique. Moi, je ne connais pas d'autres festivals qui s'inscrivent autant dans la ville. On est dans une ville particulièrement riche au niveau de l'architecture, au niveau de l'histoire.
Ça aide, effectivement.
Et ce festival des Suds en explore chaque nuance. Mm. Et je connais pas d'autres festivals, mais ça doit exister.
Ça existe dans d'autres esthétiques également, mais notamment des musiques innovantes. Mais pas forcément à travers un festival d'ailleurs, ou en tout cas, pas à travers un festival tel qu'on le conçoit, ou qui ne pourrait pas être l'équivalent des Suds. Hein. Mais ça existe. Après, c'est une question de volonté, de direction, on va dire. C'est visiblement la volonté de Marie-José est suffisamment tenace pour arriver aujourd'hui à avoir un public dans un théâtre antique qui soit averti dans son entièreté. C'est l'enthousiasme du public du théâtre antique est assez étonnant. Et je pense que c'est très lié effectivement à tout ce travail dont on parle depuis tout à l'heure. Donc voilà.
Et aussi de fidélisation, parce que hier, ce qu'on a vu, c'était exceptionnel, mais néanmoins, est annoncé, c'est une fidélité. Les artistes qui étaient là sont des artistes qui sont connus des gens du Sud, parce que Thierry Robin y a joué à plusieurs reprises, Daniel Waro y a laissé des souvenirs inoubliables, et en fait, hier soir, on a assisté à des retrouvailles entre le public arlésien et ses artistes. Et qui eux-mêmes, il y avait un échange comme ça très 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 émotionnel, très très affectif, qui est aussi à la base de ce festival. Il y a un vrai travail comme ça sur la rencontre humaine, sur l'humain, sur la matière humaine. Et ça, c'est assez remarquable. Et quand on vient, comme moi, chaque année, on s'en rend vraiment compte.
Je crois que ça, c'est aussi une dimension au-delà du festival. C'est une dimension arlésienne qui est, sans faire de localisme, hein, moi je viens de haute contrée auvergnate, mais je crois que la ville a une capacité en fait à produire de la culture. Je parle pas de production au sens des industries culturelles. Je pense que c'est un cadre de vie, un cadre historique, patrimonial, qui favorise énormément la création. Il n'y a qu'à voir les artistes qui sont en résidence à l'autre musée de la ville, qui est le musée d'art contemporain. Et c'est vraiment intéressant de voir que c'est le patrimoine antique qui produit du patrimoine contemporain. Et parce que ces artistes, forcément, ils sont sensibles à tout ce qu'ils voient dans cette ville. Et ils produisent des œuvres qui sont en rapport direct, pour des photographes par exemple, avec ça. Donc ça se boucle. Et donc le fait qu'il y ait des histoires musicales qui naissent à Arles, des artistes qui reviennent et qui du coup laissent une trace... Quand ils reviennent, il y a quelque chose qui s'est du coup accumulé. Et donc une histoire s'écrit petit à petit. Je crois que c'est quelque chose qui est, moi qui donc vis Arles depuis 7 ou 8 ans maintenant, c'est une dimension de la ville que je commence à percevoir.
Donc c'est pas seulement dans ce festival.
Disons que je crois qu'il y a une magie dans cette ville, réellement, qui tient à pas mal de paramètres. C'est pas un hasard si Van Gogh s'y est arrêté, si Gauguin s'y est arrêté, Picasso s'y est arrêté. Les artistes ont été sensibles à cette ville, qui est un agrobourg, hein, comme on dit, hein, c'est un gros village, et qui est un gros village international. Et ça, je crois que c'est vraiment la magie de cette ville, et je pense que les gens qui ont une sensibilité artistique, ils l'entendent, ça, ils le voient.
Oui, c'est sûr. À propos de Van Gogh, moi, je connais une autre ville où il a laissé une trace importante. C'est la ville où il est décédé, qui s'appelle Auvers-sur-Oise. Il y a un point commun évident quand on y est, c'est la lumière. Il y a une lumière exceptionnelle à Arles et à Auvers-sur-Oise aussi. Et tout ça participe grandement à l'esprit des gens qui habitent, la lumière étant... facteur souvent mésestimé, mais important, n'est-ce pas ?
Et de grande importance, effectivement.
Cathy, vous qui vous cachez, comme moi d'ailleurs, derrière des lunettes de soleil en ce matin.
Le soleil, oui, mais surtout pas du soleil, justement. Puisqu'on est là, autant profiter de la lumière, comme vous dites.
Ça, c'est sûr. Alors moi, je voulais vous proposer de profiter d'autre chose, c'est de l'excellent travail. Fabrice, vous voulez nous quitter ? Vous avez quelqu'un à aller chercher à la gare, je crois. C'est ça que vous êtes en train de me signifier pendant que je parle. Alors, dites-nous au revoir.
Au revoir,
on vous fait une grosse bise.
À très bientôt, au musée ou ailleurs.
Et à tout à l'heure, à 16h30, au musée d'Arles Antique, pour un salon de musique en compagnie d'Abadji et de Wazifuddin Dagar.
Merci.
Bon après-midi à vous. Merci. Bonne matinée. Alors, donc, je disais que je voulais vous faire profiter de l'excellent travail d'un jeune label qui s'appelle Oriki, qui fait justement l'archéologie musicale. Et il est allé fouiller dans les archives de la musique africaine des années 70 et il a édité, entre autres merveilles, le disque d'un musicien malien mais expatrié en Côte d'Ivoire, je crois, qui s'appelle Moussa Doumbia, et qui dans les années 70 faisait un petit peu un funk en réponse au travail à James Brown, par exemple, sur un morceau, c'est assez flagrant. Sur celui-ci, on va avoir tout à fait une autre ambiance, puisqu'on va avoir une ambiance footballistique.
Le ballon, quand il regarde le ballon, il descend bas le pied. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe à Seiba. Seiba descend bas le pied, il temporise. Descend toujours.
Joliba.
1, 2, 3. But! Come on, for Bali, for Monday. Mother, I can't for Bali, though. jondo ke romari sate jondo ke bulo la gurundi madre me mbanzangale famozani bamozo fragurani framanyongo siglangurani zuma belamina amoru kudung molola deliba kela warari deliba sera balona amoru deliba sera balona maledene kuno worola amoru maledene kuno worola deliba dirija anite deliba manata yoro yoro adimona bando maledene kuno worola
Il donne à Seiba, Seiba descend, il évite son vis-à-vis, il passe à Mokéjane, Mokéjane qui est libre, descend, bat le pied, cherche un partenaire, il trouve Kadelke, bien placé au bord de la Seiba de réparation, qui tente, Seiba descend, à côté, Kadelke, attention, c'est dangereux, il tire et c'est le but, c'est le but.
Yeah.
ça Doumbia dans l'album. L'album s'appelle Keleya chez Oriki Music. Alors le morceau tout à fait rigolo qu'on a entendu s'appelle Joli Bain. Marie-Jo, voilà quelqu'un que tu ne vas pas pouvoir programmer. J'en suis désolé parce que ce disque date des années 70.
D'accord, oui. Ouais, c'est pas
alors Marie-Jo dans sa chronique journalière quotidienne, les amis de Marie-Jo.
Des amis de Marie-Jo, alors...
Qui sont-ils aujourd'hui?
C'est nos partenaires, hein, dont il s'agit chaque fois bien sûr. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous parler peut-être de Actes Sud Harmonia Mundi, hein, qui sont en même temps des entreprises importantes d'un point de vue national et même international, et complètement arlésiennes, et qui les deux sont partenaires des Sud cette année. Harmonia Mundi, ça avait été le cas il y a quelques années, ça s'était arrêté, c'est reparti. Actes Sud, ça fait quelques temps maintenant. Donc Actes Sud, bien sûr, sur Arles, on sait que c'est une grande librairie et que dans le même lieu, hein, il y a également un restaurant, il y a également un hammam, il y a un lieu d'exposition. Enfin, c'est tout un complexe culturel génial, absolument génial. Mais à côté de ça, c'est une maison d'édition parmi les plus célèbres en France.
Les plus prestigieuses, hein, oui.
Les plus prestigieuses, avec un prix Goncourt maintenant, avec beaucoup de choses en France et à l'étranger. C'est vraiment une très grosse, très importante maison d'édition autonome, voilà, qui a réussi à émerger alors que normalement...
Très, très identifiable, ils ont un format de livre tout à fait à eux, avec un style de papier reconnaissable.
À eux aussi, oui.
Et de grands auteurs.
De grands auteurs, exactement.
Pour l'international, il y a Paul Auster, par exemple, qui est traduit chez...
Tout à fait, Nina Berberova, enfin franchement, c'est beaucoup de grands talents et nous avons la chance de les avoir à Arles, voilà. Et c'est vrai d'être bien complice.
Pour Harmonia Mundi.
C'est exactement la même chose pour le monde du disque. Pour Harmonia Mundi, c'est une maison de distribution, hein, avant tout, mais,
oui, avant
mais
tout,
d'édition
mais ils ont
également.
Leur label,
et leur propre
le
label.
Monde, qui
voilà.
Est très important, très ancien. Et c'est à cette époque de crise du disque, c'est le... La maison qui se maintient, qui maintient son cap en vrai contre tout, et ce, plus non pas par une puissance financière phénoménale et des capitaux venant de sponsoring douteux, mais parce qu'il y a une vraie politique artistique.
Absolument, absolument. Et donc Harmonia Mundi existe aussi dans le monde entier avec donc un réseau de distribution très important et de plus en plus de boutiques. Ça aussi, c'est leur originalité. C'est avoir à la période où toutes les magasins de disques fermés, en avoir ouvert au contraire, hein, des librairies, maisons de disques. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'assez génial et qui marche très très bien. Donc là aussi, la maison mère, comme Actes Sud, ben, tout ça est à Arles. Et c'est vrai que c'est une chance inouïe, là aussi, d'avoir sur place deux fortes industries culturelles, c'est vraiment le mot, qui emploie beaucoup de monde. Hein. C'est 120 personnes d'un côté, 100 de l'autre, donc c'est de nombreux salariés qui vivent en ville et je crois voilà, qui participent à une dynamique culturelle qui est devenue très forte à Arles.
Et comme Actes Sud, on va dire un format tout à fait particulier, avec toujours des livrets qui sont extrêmement documentés et qui sont très riches d'informations. Je pense que ça fait une grande différence dans le rapport à l'objet finalement pour les consommateurs, hein, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Hein, ce qui fait probablement que effectivement Harmonia Mundi aujourd'hui, dans un contexte de crise pour la production discographique, s'en sort enfin se porte peut-être mieux même. Puisqu'il a fidélisé lui aussi un public qui revient sans cesse et qui est de plus en plus nombreux.
Alors on ne saurait faire le tour des institutions culturelles arlésiennes sans parler d'un lieu cher aux Arlésiens et aux Arlésiennes et aux festivaliers qui est la Mouletta.
Ah oui, bien sûr,
la Mouletta qui est le partenaire...
Partenaire des afters, des après si vous préférez, que l'on parle en français. Je sais qu'eux, ils aiment bien.
C'est toi qui préfères, c'est non, t'aimes
bien oui,
ça.
Oui, mais les afters, là, c'est tellement passé dans les mœurs.
Et alors, pour la Mouletta, nous avons Laurent qui est là en reporter exclusif pour la Radio des Sud. Il nous a fait qui va nous faire un petit compte-rendu de ces afters torrides. Laurent, bonjour.
Bonjour, donc je m'y suis rendu après le concert de Titi Robin, il devait être 23h30, minuit par là.
Et plus tard, hein, après. Si c'est vraiment après le concert.
Ouais, légèrement plus tard. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir le monde qu'il y avait à comparer aux soirées précédentes, justement. Normalement, à partir de 23h, normalement, le monde commençait à venir à partir de 1h, 2h du matin, minuit, voire même. Mais là, la salle était comble. Il y avait une très bonne ambiance.
Mais c'était difficile de circuler.
Très difficile de circuler, ouais.
DJ Eric a encore fait des siennes.
Oui, pareil.
Et,
oui.
Et il a même passé des disques qu'il n'aurait peut-être pas passé si tu avais été là, je crois.
D'accord, oui. Hier, je faisais un peu le break des afters. Il a dû profiter de mon absence.
Il y a eu du rock, du hard rock.
D'accord, il paraît que c'était pas très musique du monde.
Du métal, du rap, mais pas que. Il y a eu beaucoup de musique balkanique endiablée aussi.
Oui, ça, il s'en passe pas.
Et alors, comment vous avez trouvé la programmation musicale hier ?
Plutôt bonne, j'y ai pas tellement fait attention parce que quand on y va, c'est pour fêter, pour faire la fête. Alors, on fait pas tellement attention aux musiques, on se laisse emporter, quoi.
Cathy, vous ne connaissez pas ça encore, les afters de la bodegue
Non, je vais découvrir ça ce soir. J'avoue une certaine impatience. Oh. Parce que les occasions de faire la fête ne sont pas si nombreuses.
Oui. Mais il y a toute une journée à dévorer, une journée de fête.
Oui, oui.
Le samedi, le dernier samedi, ce n'est pas tout à fait un jour comme les autres. D'abord, nous sommes, il faut le rappeler, le jour de la fête nationale. Bonjour bleu, bonjour rouge, bonjour blanc. Mais aujourd'hui, c'est aussi le repas de quartier, par exemple.
C'est le repas de quartier qui, cette année, se fait à la Hauture. Alors, pour tous les habitués du festival, je crois que ça va être l'occasion de découvrir un autre quartier d'Arles qui est charmant, qui a tout le charme des villages, je dirais presque. C'est près des remparts de la ville, donc en hauteur, bien sûr, c'est au-dessus des arènes, hein, du théâtre antique. Et c'est une petite place, la place de la Redoute, avec de vieux platanes. C'est extrêmement charmant. Et là, qui plus est, nous sommes vraiment attendus et les bienvenus dans le quartier. Ce qui n'est pas si évident que ça, hein, quand on est organisateur ici. Bon, à la Roquette, ça s'est toujours bien passé. L'an dernier, on a fait une tentative place Voltaire et ce n'était pas très évident. Et donc cette année, à la Hauture, je suis ravie que tout le monde aille là-bas.
D'accord, mais on va découvrir. Dis-moi, on a un rendez-vous avec des très fidèles du festival.
Ah oui, plus que des fidèles même. Hein. C'est...
On se demande même si parfois c'est pas eux qui l'ont créé, ce festival-là.
Oui, oui, oui. Alors, peut-être pas toute l'équipe du corps, puisque c'est de que tu parles, hein, le corps de la plaine, bien sûr. Mais en tout cas, Manu Théron, c'est vrai qu'il est là quasiment depuis le début, avec tous les groupes, sous toutes les formes. C'est un compagnon de route lui aussi.
Et lui aussi fait les afters. Quand il peut, t'assurer, Laurent, que ce soir, tu risques de croiser Manu Théron.
Oui, 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 ça c'est un rituel. Et je sais qu'ils repartent le soir même, ils sont organisés, ils ont tiré au sort, il y en a un qui ne boit pas, pour pouvoir amener tous les autres à Marseille. Donc voilà.
On sait lequel ne va pas boire.
Non, je ne sais pas encore, ça va être une question à leur poser.
En tous les cas, on sait que lequel
le
va chanter.
Est désigné. Oui.
Ils vont tous chanter pour nous maintenant, mais grâce à leur disque qu'ils viennent célébrer ici, qui est sorti cet hiver, mais bon, on peut célébrer longtemps un disque comme ça, puisqu'il est absolument exceptionnel. Il s'agit de Tan Deman que nous allons écouter maintenant.
Que la vie de ce longue vie ou qu'à fois sauté, lui manque des tempères à prenez. Que des six coups de chat, il approche à l'homme, douze copulaires d'eau pas il est terné. Maï ni marci est tout plein d'imbéciles, c'est ce beau que fa des moulins. Des signes d'avant, qu'est-ce que c'est un subassier? C'est une respuesta universelle. Tant de ma cuba social, ma pré, ça tant de ma. Pas des ondes estrées, Satan demande, lisa la vol, lisa la pa, demandi, ne demanda la pata. Cadun sumbiai, et cadun sumtri, ou ne s'est pas là outre mesurant. Perdre la commensa et sa psycha la vie, pas menant la vie d'autre odula. Angèle et les routes, si de la vie, tiens, et chabit ou père. C'est prenant des une peine. Tant de ma cuba social pas prêt. Satan de ma pas besoin de s'estrer. Satan de ma ni ça l'aï vol, ni ça l'aï pas. Demandi, ne demanda l'aï pas ta. La que mange un pu, aimer les pésamés. Que les femmes bouillent la cervelle. Et faire pas si gava des merdames. Nous femmes pita d'insagamelle.
facie des carrément. Tandema, Cuba socia, pas prêt. Satandema, pas besoin de s'estré. Satandema, ni sarai voli, sarai pas. Demandi, ne demanda, n'ai pas ta. Mon propriétaire, l'idée longue, mi fa. Sa dita come un verme. Ai un mi fa pene sei son sa truffa. Fali di un espera e li la si che spaglie un mai più le un suo mari prefa. Fa che lo fa la creba destra. Si tante ma cuba socia pa pre. Sa tante ma pa besoin de s'estre. Sa tante ma ni sa lai vo ni sa lai pa. Demanti nen demanda lai pa ta.
Connais, toi, le corps de la plaine?
Oui, j'ai eu la chance de les voir il y a quelques années maintenant au Chaînon Manquant, au festival du Chaînon Manquant. Donc, voilà.
C'est inoubliable, une première fois avec Manu Théron et ses compagnons.
C'était un très beau concert, oui. C'était un très beau concert. Et depuis, je suis un petit peu leur parcours de loin en loin. Je m'intéresse à ce qu'ils font, à travers leur tournée. Et, voilà.
La formulation est juste parce qu'il fait aussi des choses en dehors d'eux. Donc, par exemple, Chinanapoum avec Patrick Vaillant, qu'on a reçu hier ou avant-hier, je ne sais plus.
C'est et Daniel un artiste qui, visiblement, a la bougeotte, qui ouais, a besoin de s'exprimer. Heureusement.
Mais dans on le leur remercie. Sud ici, et ça, c'est l'un des gros grands plaisirs qu'on a ici avec Majo, c'est que dans le sud, il y a une scène très très forte dans le sud de la France, et Marie-Jo a à cœur de la faire découvrir aux festivaliers. Et elle nous fait aussi découvrir des artistes qui viennent d'un sud encore plus lointain, comme ça a été le cas hier pendant les scènes en ville avec le groupe de Barcelone que nous allons accueillir maintenant, qui s'appelle, hein, il ne faut pas que je fasse d'erreur de prononciation, alors je vais demander à leur camarade.
Il s'appelle Selva de Mar.
Selva de Mar.
Selva de Mar.
Selva, c'est la sève de l'eau? Non, c'est
non,
quoi?
C'est la forêt de la mer.
Ah, voilà. Donc,
tout un programme.
Ils ont eu la bonne idée de ne pas partir aussitôt après leur concert, de rester un peu. Donc, je pense qu'ils ont profité hier. Au revoir, Cathy.
Merci pour l'invitation.
Oh, bah, très, très bientôt. Hein. À très vite. Et bonne journée. Ils ont eu la bonne idée donc de ne pas partir après leur concert d'hier, leurs deux concerts d'hier qui se sont merveilleusement passés. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont assisté à ces concerts étaient totalement sous le charme, je tiens à le dire, et à leur faire savoir. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors il y a un petit problème de micro, on va partager celui-ci. Vous en avez trois. Bon dia.
Bonjour. Ça va bien.
Ça va bien.
Bon, je suis Pablo Weng, je joue le Hang dans la Selva de Mar avec Sacha Agranov qui joue le violoncelle. Et normalement, ouais, c'est un duo et aujourd'hui, on a un ami, Giori, qui va jouer avec nous la percussion.
Qui a fait le voyage, qui joue à un oudou, voilà. une poterie. Voilà. Et alors, le duo de base s'est rencontré, il a commencé à faire de la musique depuis quand ?
Depuis presque un an. On s'est rencontrés par hasard et bon, on a fait des impros et tout de suite, les hangs avec les violoncelles, ça marchait très bien. C'était un formula extraordinaire.
Il parle très bien le français. On n'a pas besoin de traduction là, pour l'instant. Et mais alors, il y a un truc tout à fait étonnant, c'est que cette musique-ci, très particulière, on n'arrive pas facilement à savoir d'où elle peut venir, quel a été votre parcours.
C'est bien ça.
C'est pas tout à fait du flamenco, on en est loin même, ni de la rumba catalane. Hein. Quelles sont vos sources, vos influences, s'il y en a ?
Je sais pas, nous on dit c'est de la musique aquatique.
Ce sont des anciens poissons alors. Eux ils ont suivi la filière poisson, ils ne descendent pas du singe, d'accord.
On a besoin de noms pour tout, alors s'il faut donner un nom, voilà, on donne des noms. Mais...
Donc la forêt, d'où la forêt de la mer.
Voilà.
D'accord, et alors est-ce que on va pouvoir prendre une douche avec vous ce matin et profiter un peu de cette musique aquatique ?
Bien sûr, on va faire un morceau.
D'accord.
Il s'appelle Indio-Hindou.
Parfait.
Indio-Hindou.
C'est-à-dire ?
L'Indien hindou.
Ah, bah voilà. Donc, on va voyager. Selva de Mar. Thank you. Selva de Mar dans l'Hindi Hindul, l'Indien des Indes. Alors on comprend pourquoi, on a entendu ces fameuses syllabes répétées, si chères aux percussionnistes de musique hindoustanie. Justement, alors faut aussi que je vous dise qu'ici, au cloître, les gens viennent déjeuner, ils nous écoutent de loin. Et là, tout le monde est autour de nous en train d'applaudir ces Barcelonais étonnants, et les moustiques ont cessé de piquer aussi. Et quand on vous rencontre, on vous aime, et quand on vous aime, pour paraffer un film célèbre, où est-ce qu'on vous trouve ? Vous avez fait un disque ?
Oui, on a enregistré un disque acoustique dans une église à Barcelone. Et voilà.
Et vous le distribuez comment ?
Pas encore. On cherche quelqu'un qui s'intéresse.
Ah, bah alors vous faites bien de le dire, parce qu'on va peut-être se mettre à chercher avec vous. C'est pas toujours simple, c'est pas très simple aujourd'hui. Alors, est-ce que vous donnez des concerts ? Est-ce que vous commencez à tourner ?
Oui, ouais, ça fait. Les projets, c'est très nouveau, très nouveau. Et bon, on fait des concerts à Barcelone parce qu'on habite là-bas et on vient de jouer dans Israël. On a fait un petit tour et bon, là, on est venu en France et bon, oui, on est ouvert pour des propositions et tout.
Très bien. Et est-ce que quelqu'un sait comment Marie-Josée, justement, a eu vent de votre travail, la directrice du festival Les Sud d'Arles?
Oui, parce que bon, elle a écouté la musique, elle a reçu la musique, elle adorait. Bon.
Elle a reçu, ça c'est pas aussi simple que ça. Ah, Manu Théron, j'aperçois. Attends. Bon, c'est un drôle de personnage qu'il faudra que vous rencontriez. Donc oui, c'est pas aussi simple que ça. Marie-Josée, justement, doit recevoir à peu près autant de disques que moi, ça va une centaine par mois. Et donc, voilà, elle a eu le bon goût d'écouter le vôtre et forcément d'être séduit. Les mots sont vains par rapport à votre musique. Donc très vite, si c'était possible, on aimerait bien vous entendre à nouveau.
Ok, on va faire un autre morceau.
Vous voulez bien ? Ils sont gentils, hein ?
Por qué me dejaste ?
Ils sont très gentils en plus. Voilà, donc on arrive à la fin de ce petit déjeuner, de ce dernier petit déjeuner. Benjamin, merci. On voulait, au nom de toute l'équipe de la Radio des Sud, te remercier d'avoir brillamment animé et présenté ces petits déjeuners à l'école du cloître. Donc on termine donc sur cette improvisation, ce morceau de Selva del Mar, qui est un peu la découverte de la dernière heure ici du Festival des Sud 2007. Nicolas, un petit mot.
Bravo Benjamin, encore une fois, je pense que les petits déjeuners s'améliorent d'année en année. Merci à Jérôme d'avoir été autour de l'équipe de la Radio Rage pour assurer la technique de tous ces petits déjeuners chaque matin en direct des petits déjeuners orientaux. Rendez-vous tout à l'heure pour le dernier plateau de l'émission des jeunes arlésiens et de Bervilliers. Bon, ben, je pense que le mot de la fin, c'est à l'année prochaine.
Hasta luego.
Wow.